Ok, bon après-midi à tous et merci Michel pour cette introduction qui est. On peut les faire plus courtes, ça ne me gêne pas. Hein. D'où je suis ici un peu pour vous parler finalement d'un sujet d'une importance, je dirais, capitale aujourd'hui, que ce soit les énergies renouvelables, le stockage de l'énergie, la conversion. D'où, durant cet exposé, eh bien, je ne vais pas faire directement un cours de pure électrochimie, mais je vais plutôt vous donner finalement les avancées qui ont été faites dans ce domaine. Les conséquences au niveau fondamental, mais surtout les conséquences au niveau sociétal. Et c'est la raison pour laquelle mon exposé, finalement, sera un jeu de ping-pong entre la recherche et également les applications. Alors tout d'abord, eh bien, effectivement, comme vous avez tous vu, vous lisez tous dans les journaux, eh bien, aujourd'hui, l'énergie, les batteries font la une de toutes les revues, pour savoir finalement quelle est la connexion entre ces différents secteurs. Alors, on entend beaucoup parler du monde décarboné ou du monde défossilé, si je peux dire, et la question, c'est finalement comment on va pouvoir faire cela. Alors, il y a un grand espoir qui repose sur le fait qu'on puisse remplacer des énergies de stock, que sont les combustibles, les fossiles, par des énergies de flux, que sont finalement des énergies renouvelables, comme celles qui viennent du vent ou de la biomasse, voire du soleil. Et ce qui est intéressant, c'est que le soleil, comme vous savez tous, eh bien, a une énergie, je dirais, colossale, puisque finalement, le soleil envoie sur la planète 10 000 fois l'énergie qu'on a besoin, que nous avons besoin dans un an. D'où, dans ce cas, eh bien, il y a l'énergie, mais la question fondamentale, c'est comment on va pouvoir tout simplement l'apprivoiser, si je peux dire, ou alors la maîtriser, sa production, son transport, sa conversion et son stockage. Et c'est un peu ce qu'on va voir maintenant. Alors ces énergies, comme je vous dis, c'est des flux, eh bien, il va falloir les transformer. Et je vais prendre l'exemple, par exemple, de l'énergie solaire. Eh bien, cette énergie solaire, elle peut être transformée en vecteur énergétique. Et ces différents vecteurs énergétiques, il y a plusieurs directions de recherche aujourd'hui pour exploiter cela. Il y a bien sûr le vecteur qui est transformé en électricité, et cela se fait par les piles photovoltaïques, comme indiqué ici. Il y a également la transformation par la photocatalyse, où on prend, dans ce cas, avantage de l'interaction, eh bien, je dirais, interface solide-liquide pour décomposer l'eau en hydrogène et oxygène. Et enfin, il y a le troisième vecteur, que sont les biocarburants, soit par photosynthèse naturelle ou photosynthèse artificielle, dans lequel cas, il faut, dans ce cas, bien sûr, développer, je dirais, des outils ou des procédés enzymatiques assez sophistiqués. Alors, voilà les trois secteurs, et parmi ces trois secteurs, eh bien, définitivement, il y en a un qui a pris, je dirais, le dessus, en raison du rendement, c'est tout simplement le domaine du photovoltaïque, où aujourd'hui, on arrive directement en application à avoir des rendements de plus de 20%. Alors bien sûr, la difficulté en ce cas, comme je vous ai mentionné, on est en train de regarder des flux d'énergie. Et si vous regardez le cas du photovoltaïque, eh bien, on a des coûts qui sont maintenant très compétitifs, comme indiqué ici. Par contre, si on regarde finalement la réponse d'une ferme photovoltaïque, comme mentionné là, en fonction du temps, on s'aperçoit qu'il y a des chutes de puissance, et ainsi de suite. Et ça ne peut pas être utilisé tel que. D'où par conséquent, eh bien, il va falloir, dans ce cas, comment faire, trouver des moyens de, finalement, d'empêcher ces larges variations. Il va falloir lisser ces fluctuations et il va falloir faire du stockage. Alors la question, c'est quel type de stockage on peut faire. Alors le stockage, c'est certainement le premier qui vient à votre esprit, à vous comme à moi, c'est finalement. Il est indiqué ici, il est relativement simple, c'est-à-dire qu'on a un réservoir, et lorsque le vent souffle, lorsque le soleil brille, eh bien, en ce cas, on peut directement pomper l'eau dans ce réservoir, c'est-à-dire qu'on emmagasine l'énergie, et ensuite, lorsqu'on veut prendre une douche, ainsi de suite, il suffit de tourner le robinet, et l'énergie a été déjà emmagasinée, et on peut avoir directement l'utilisation. Alors ça, si vous voulez, c'est à la petite échelle, mais ça peut être également fait à la grande échelle. Il y a de grands projets aujourd'hui, notamment au Chili, je vous en montrerai un, le projet de Valhalla, qui est, dans ce cas, au nord du Chili, eh bien, dans ce cas, on va profiter, où les Chiliens profitent d'une falaise de 500 mètres, au sommet duquel ils vont émettre des panneaux photovoltaïques. Ces panneaux photovoltaïques vont produire l'électricité pour alimenter eh bien, toutes les pompes, pour aller remplir ce réservoir, dans le même principe qu'ici. Et ensuite, eh bien, lorsque vous voulez utiliser eh bien, l'énergie, dans ce cas, il va falloir tout simplement descendre sur les turbines, ainsi de suite. L'avantage de cela, eh bien, c'est un avantage au niveau coût. Comme vous pouvez voir ici, où on est à 7 US cents du kilowattheure. Vous verrez par la suite qu'on est beaucoup plus haut dans le cas des batteries. Mais la difficulté, eh bien, c'est qu'il y a très peu de sites géographiques dans lesquels vous pouvez faire ce genre d'installation. D'où c'est la raison, on ne va pas continuer sur ce type de stockage, mais on va plutôt changer sur un stockage que vous connaissez tous bien, qui est le stockage électrochimique. Et ce stockage électrochimique, ce n'est rien d'autre que de la conversion d'énergie chimique en énergie électrique. D'où on va utiliser tout simplement la liaison qui contient des électrons, et le même porteur va être l'électron, que ce soit pour la chimie ou pour l'électricité. Et l'objet qui fait cela, eh bien, ce sont les batteries, comme indiqué ici. Alors vous avez ici les différentes formes qu'on appelle comme piles boutons, des piles type des cylindriques ou alors des prismatiques et ainsi de suite. Alors maintenant, si on regarde les batteries et si on regarde finalement l'histoire des batteries au cours du temps, eh bien on s'aperçoit qu'il y a eu une forte évolution à partir des systèmes, je dirais, aqueux, dans lesquels lead acide, nickel cadmium, nickel métal hydrure, même nickel zinc, avec ici la technologie lithium-ion. Et cette technologie lithium-ion, c'est définitivement la plus grande avancée électrochimique du dernier siècle, ce qui n'est pas une surprise pour laquelle, finalement, cette technologie a reçu le prix Nobel et les pionniers dans ce domaine, que sont John Goodenough, Stan Whittingham et Akira Yoshino, ont reçu le prix Nobel pour leurs travaux, je dirais, complémentaires pour le développement de cette technologie. Alors, cette technologie dont on va parler aujourd'hui, que vous utilisez dans tous vos appareils portables, voitures électriques, ainsi de suite, est indiqué ici sur ce schéma. Relativement simple, comme tout système électrochimique, vous allez avoir dans ce cas deux électrodes qui vont tout simplement baigner dans un électrolyte. Cet électrolyte est un électrolyte non aqueux qui va assurer le transport d'ions d'une électrode positive à une électrode négative. Et la spécificité des batteries à ions lithium est notamment dans le matériau d'électrode. C'est un matériau d'électrode, un composé inorganique, dans lequel vous avez des cavités, vous avez des sites cristallographiques qui vont pouvoir recevoir le lithium. Et ce lithium, eh bien, il va directement se balader de l'électrode positive à l'électrode négative. Alors pour cela, eh bien, on va caractériser ces matériaux par la courbe classique, une courbe, comme vous verrez, vous n'en verrez pas beaucoup quand même dans cet exposé, dans laquelle on va tracer le potentiel en fonction de la capacité. Okay, vous avez ici une décharge et ensuite une charge. C'est exactement ce qui se passe lorsque vous passez un coup de téléphone. Vous êtes en train de décharger la batterie. Et ce qui est important, c'est quelle est la densité d'énergie. Mais la densité d'énergie n'est rien d'autre que la surface en dessous de cette courbe électrochimique potentielle capacité. Et en tant que chimiste du solide, eh bien, notre travail est bien sûr d'augmenter cette densité d'énergie. Alors vous allez voir, la relation n'est pas vraiment compliquée. Vous voyez, elle est très simple. Vous la connaissez tous, la densité d'énergie, c'est le produit du potentiel par la capacité. Et bien sûr, en tant que chimiste, eh bien, il va falloir jouer sur ce potentiel. Et sur ce potentiel, eh bien, on va jouer avec quelque chose que vous, les physiciens, vous adorez, c'est la structure de bande, la structure électronique du matériau. Car le dernier haut niveau occupé, qu'on appelle le niveau de Fermi, est pour nous le potentiel redox du matériau. Et c'est ce niveau de Fermi avec lequel on va jouer en modifiant nos composés. Ensuite, il y a l'aspect structure cristallographique du composé qui sera important. Vous voyez ici que dans ce cas, eh bien, pour avoir des capacités plus importantes, je vais avoir, ça sera une règle 3 dans laquelle le nombre de lithium, c'est-à-dire le nombre de lacunes, va être important et la masse eh bien, doit être faible puisqu'elle est au dénominateur. Et là, ça va directement gouverner notre choix de matériaux qu'on va utiliser. D'où voilà, si vous voulez, comment ces batteries fonctionnent. Alors, ce que je voudrais montrer maintenant, c'est que ça, vous voyez, c'est l'aspect purement fondamental. Et vous allez voir que si le domaine des batteries a évolué, eh bien, ça vient autant de l'aspect, je dirais, business. Et il y a eu un personnage que vous connaissez tous, parce que malheureusement, des fois, il fait trop parler de lui, qui est Elon Musk. Eh bien, c'est Elon Musk qui, en 2015, a dit, eh bien, finalement, je souhaite que sur la Terre, tout humain ait autant d'énergie qu'il veut, à bas coût, et quelle que soit sa position sur la planète. Et c'est là qu'il a fait directement une annonce dans laquelle le prix des batteries était beaucoup trop élevé et devait descendre aux alentours de $100 par kilowattheure, valeur à laquelle on est aujourd'hui. Ensuite, il a refait une annonce en 2020 pour maintenant parler de $100 de kilowattheure. Et bien ça, si vous voulez, ça a été, je dirais, ce qui a déclenché ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que ce monsieur a donné un coup de pied dans la fourmilière et a directement modifier complètement le panorama ou le périmètre des batteries. Et ça, eh bien, ça a changé complètement le monde économique, les fabricants de batteries, les utilisateurs de batteries, et même au niveau recherche, je vous le montrerai par la suite, ça a également changé la façon de faire la recherche de ces systèmes. Alors au niveau des fabricants de batteries, et vous des utilisateurs de batteries, eh bien, effectivement aujourd'hui, si vous avez le boom du véhicule électrique, vous avez actuellement plus de 450 modèles, eh bien, c'est parce qu'il y a eu cette accélération, il y a de cela 7 ou 8 ans. Les marchés sont très lucratifs. Si on regarde au niveau du véhicule électrique, alors là, ces chiffres, 150 millions, vous allez les trouver peut-être à plus ou moins 10 ou 30%, mais c'est pour vous dire que le marché est gigantesque. Et ce qui est important, c'est qu'en dehors du véhicule électrique, dont on parle beaucoup, il y a tout un domaine qui est le stockage de l'énergie, les grilles, qui sont également très fortement demandeurs en stockage d'énergie, où là, on voit des augmentations qui vont passer de 3 à 4 gigawatts à 1300 gigawatt-heure. D'où, comme vous pouvez voir, il y a une demande gigantesque. Donc la question, c'est comment répondre à cette demande gigantesque et comment faire partir, si vous voulez, à l'échelle européenne de cette course. Eh bien, la réponse, elle est simple, vous la connaissez, vous avez lu sur les journaux, eh bien, c'est tout simplement la création de gigafactories. Et les gigafactories sont en train de pousser comme des champignons en Europe, avec notamment, je dirais, Northvolt, qui est certainement le plus avancé, et bien sûr, il y a également deux gigafactories françaises qui sont dans le nord de la France, entre Vercors ou ACC. Et grâce à cela, eh bien, l'Europe espère, dans les années, je dirais, 2030, de posséder 19% ou de produire 19% des batteries pour directement le stockage et pour le véhicule électrique. Alors qu'aujourd'hui, on n'en produit qu'un pour cent. Et voyez les chiffres qui augmentent, qui sont de façon gigantesque, et on verra par la suite. Alors ça, c'est très bien. La question, c'est finalement, lorsque vous avez des densités d'énergie comme ça, il y a une question qui se pose, c'est les matériaux. Et quelle va être la quantité de matériaux nécessaires ? Bien, si vous regardez un accumulateur, vous avez ici, par exemple, toutes les parties, tous les composants de l'accumulateur, dans lequel vous trouvez du cuivre, du nickel, du graphite, du manganèse, du cobalt, aluminium. Et si on fait une projection des quantités de matériaux, eh bien, on s'aperçoit finalement que de 2020 à 2030, on est en train de multiplier le taux de matériaux par un facteur 6, où on est maintenant avec plus de 4 millions de tonnes d'électrodes positives, et au niveau du lithium, on est aux alentours de 280 000 tonnes. Et ce que vous remarquerez ici, c'est que dans ce cas, l'acteur numéro 1, bien, c'est la Chine. C'est intéressant puisque la Chine n'a pas de grands gisements de lithium. Par contre, on lui envoie des minerais pour les raffiner. Ils font le raffinage. Donc voilà la situation aujourd'hui. Alors ça, c'est la situation, et je reviendrai à la fin de cet exposé sur ce problème des matériaux. Et maintenant, je voudrais plutôt passer sur la technologie à ion lithium et voir ce qui se passe, quelles sont les avancées et quelles sont les problématiques qui, certainement, vous posent des questions aussi. Alors tout d'abord, je voudrais dire que c'est une technologie eh bien, qui, au niveau chimie, eh bien, on la maîtrise. C'est-à-dire que vous regardez aujourd'hui les résultats qu'il y a sur les performances de ces accumulateurs, eh bien, vous apercevez que dans le cas du véhicule électrique, eh bien, on peut aujourd'hui faire 3 millions de kilomètres avec un véhicule électrique. C'est-à-dire qu'il y a une durée de vie de 25 ans à température ambiante. Si vous changez la température, bien sûr, il y a des changements. Ensuite, bien sûr, ça c'est des conditions bien limitées, il y a des tests, des conditions de conduite que vous allez avoir, eh bien, ça va pouvoir changer. Mais c'est pour vous dire que cette chimie, eh bien, on la maîtrise. Et si on considère finalement des conditions bien définies, avec des coupures en potentiel, si on maîtrise l'utilisation, eh bien, on est en train aujourd'hui de parler de la batterie du siècle. C'est des batteries qui pourraient, dans, je dirais, des conditions bien spécifiques, eh bien, durer un siècle. Alors, je sais que vous aurez après des questions, pourquoi elles ne durent que 10 ans? Je vous donnerai des réponses. D'où la question, c'est finalement, quels sont les challenges qui restent dans ce domaine? Bien, les challenges qui restent, bien, c'est ce que je vais un peu décrire maintenant, pour revenir un peu à la science, et je vais vous montrer finalement la science et l'innovation qu'il y a dans ce domaine, en fonction, finalement, des problématiques posées. Je vais vous mentionner comment on adresse aujourd'hui les problèmes d'augmentation d'autonomie, d'augmentation de puissance, comment on adresse les problèmes d'éco-compatibilité, et cela me mènera à parler de la technologie sodium-ion. Et enfin, je vous montrerai finalement comment augmenter la durée de vie des batteries, où là, on va tout simplement développer des batteries intelligentes, et cette dernière partie sera plutôt une partie un peu de physique, d'optique, comment on va faire cela. Nous commençons d'abord par l'augmentation de la densité d'énergie. Alors tout d'abord, ça il faut que vous le sachiez, voilà directement le matériau que vous avez dans vos accumulateurs, grosso modo. C'est-à-dire, c'est un oxyde de cobalt, ou un dérivé de l'oxyde de cobalt, qui est constitué de cette structure lamellaire, avec des feuillets de CO6, dans lesquels les ions lithium vont s'insérer. Alors ceux qui ne sont pas tellement cristallographes, voilà ce que c'est. Okay, vous voyez, ce n'est pas compliqué. Okay, dans lequel, dans ce cas, la croûte, bien, c'est le composé MO2, et la crème, c'est les atomes lithium. Et, si vous voulez, c'est sur ces composés que l'on travaille depuis plus ou moins de plus 20 ou 25 ans. On travaille depuis 25 ans car bien, on peut, comme c'est notre dada au niveau de la chimie, faire de la substitution chimique et on peut avoir des composés dans lesquels on a lithium et nickel, manganèse et cobalt. Et ces trois éléments vont tout simplement nous donner trois dimensions de liberté pour construire des matériaux et pour ajuster surtout les performances de ces matériaux. C'est grâce à ce jeu qu'on va pouvoir tout simplement augmenter la stabilité thermique du matériau, on va pouvoir augmenter sa densité d'énergie si on va ajouter du nickel, et on va pouvoir augmenter sa tenue en cyclage, c'est-à-dire sa durée de vie, si on met du cobalt. Alors je ne vais pas aller en détail pourquoi, mais voilà sur quoi on travaille. Alors bien sûr, aujourd'hui, d'un point de vue développement durable, eh bien, vous savez qu'en ces matériaux, vous le voyez bien ici, il y a du cobalt, eh bien, on va essayer, pour des raisons éthiques, de diminuer le taux de cobalt. Et pour cela, eh bien, on va tout simplement se déplacer vers des concentrations riches en nickel. Et à ce jour, eh bien, le matériau de choix, qui est en train de changer d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le 6-2-2, ça veut dire 60% de nickel, 20% de manganèse et 20% de cobalt. Aujourd'hui, dans l'industrie automobile, ils commencent à mettre des matériaux 8-1-1, c'est-à-dire encore plus pauvres en cobalt, pour la bonne et simple raison, c'est qu'on veut diminuer les taux de cobalt. Donc voilà, si vous voulez, ce qui se passe aujourd'hui réellement dans ce domaine. Alors si vous regardez cela, eh bien, ce qui se passe, c'est très bien, mais malgré cela, on est quand même limité. On est limité tout simplement à un lithium par unité formulaire. Je vais revenir sur ce point par la suite. Donc la question qu'il y a, c'est, ou qu'il y avait, c'est comment augmenter cette densité d'énergie. Et c'est là, eh bien, les travaux qu'on a fait au Collège de France il y a de cela 6 ou 7 ans, qui ont un peu, je dirais, modifié complètement la donnée. Donc voilà, si vous voulez, la croyance depuis 25 ans du fonctionnement des matériaux d'électrode, de ce fameux lithium CO2. C'est-à-dire qu'en ce cas, eh bien, vous sortez le cobalt, et lorsque vous sortez, vous sortez le lithium, vous avez oxydation du cobalt et libération d'un électron. D'où, par conséquent, vous voyez, on a un lithium, un électron qui provient du cobalt. Et ce que nous avons démontré, c'est qu'on peut fabriquer des matériaux différents, dans lesquels on appelle, dans notre jargon, des lithium rich, parce que vous voyez que maintenant, vous avez un lithium dans ce feuillet, et ces matériaux sont très spécifiques, puisque maintenant, eh bien, lorsque je sors un lithium, je peux directement récupérer un électron de mes cations, mais également mon réseau anionique, l'oxygène ou autre, participe. Ce qui fait que grâce à cela, eh bien, on peut tout simplement doubler la densité d'énergie de ces matériaux. D'où là, si vous voulez, je vous mets sur ce transparent ou sur ce plot ici, c'est aux alentours de 8 ans de recherche, avec directement chimie, physique et ainsi de suite. D'où on a de tels matériaux et qui ont des capacités nettement plus élevées. Alors ensuite, je vous ai parlé de l'électrode positive, mais il y a également dans ces accumulateurs l'électrode négative, c'est-à-dire le carbone. Et le carbone, eh bien, on utilise ces genres de carbone, c'est-à-dire des graphites qui sont naturels ou synthétiques, qui ont cette courbe électrochimique, mais dont les capacités sont de 370 mAh par gramme. Et là, c'est ce matériau qui est dans les accumulateurs depuis plus de 25 ans. Et bien sûr, cette capacité, elle va limiter la densité d'énergie. D'où par conséquent, il y a des recherches qui datent depuis longtemps même, je dirais, sur des alliages. Et ici, ce que vous pouvez tracer, c'est la capacité, en fonction des différents éléments du tableau périodique, okay, et on peut avoir des réactions avec le lithium, former des alliages lithium XM. Et vous voyez que je travaille ici sur le carbone, et il y a ce composé, qui est le silicium, qui est théoriquement, je dirais, la panacée. la panacée, parce qu'il nous donne 3650 mAh par gramme. Problème, c'est-à-dire que vous allez mettre un atome de lithium ou quatre atomes de lithium dans un atome de silicium, grosso modo. Ça veut dire qu'en ce cas, vous allez briser les structures et vous allez avoir directement une dispersion, une perte de percolation électronique. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, on n'a pas pu utiliser ces matériaux pendant tant de temps. Il a fallu que les approches nanométriques viennent ici, puisque dans ce cas, on va pouvoir relarguer les contraintes et permettre de cycler ces matériaux sur des domaines, je dirais, relativement froids. Et c'est effectivement ce qui se passe. C'est qu'aujourd'hui, la solution, c'est que pour augmenter la capacité de ces électrodes, eh bien, ce que font les industriels, c'est qu'ils mélangent le carbone avec de faibles quantités de silicium pour obtenir, comme vous pouvez voir ici, des denses capacités de composite qui passent quand même de 400 à 800 et ainsi de suite. Et ça, vous avez pas mal d'industriels, dont Panasonic a été le premier, mais beaucoup d'industriels aujourd'hui sont en train de commercialiser ce type d'accumulateur. D'où voilà, si vous voulez, ce que je voulais vous dire sur la technologie lithium-ion en termes d'autonomie. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Eh bien voilà tout simplement ce diagramme, dans lequel je trace la densité d'énergie en fonction de l'évolution, je mets ici directement volumétrique ou gravimétrique, eh bien on est aux alentours des différents composés dont j'ai mentionné, vous les retrouvez, les 6-2-2, 8-1-1, vous trouvez maintenant l'introduction du lithium, du silicium, et on est à ce jour aux alentours de 700 watts par litre et 250 watts par kilogramme. Bon, ça c'est bien, par contre, on veut toujours améliorer, et ce n'est pas assez pour l'autonomie des véhicules électriques. D'où, eh bien, il y a aujourd'hui un grand engouement pour une technologie qui va être dérivée de lithium-ion, qu'on va appeler la technologie lithium tout solide. C'est-à-dire qu'on peut soit bien jouer sur la chimie, soit jouer sur directement la configuration de la cellule. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer sur la batterie tout solide, c'est-à-dire sur la chimie. Et si on fait ça, eh bien, voilà le contraste direct. Voilà ici une batterie liquide lithium-ion. Vous avez la configuration, vous avez le carbone et vous avez le liquide. Et dans ce cas, le liquide a été remplacé par un solide. Alors cela, eh bien, ça apporte des avantages conséquents au niveau sécurité, puisque maintenant, vous n'avez plus de liquide qui est inflammable, qui est un liquide organique. Vous avez un solide, comme indiqué ici. Mais également, si vous pouvez travailler maintenant avec le lithium, eh bien, on a des augmentations, je dirais, conséquentes au niveau gravimétrique et au niveau volumétrique. Du moins, tout ça, c'est des chiffres théoriques et il faudra les réaliser. Vous allez voir que ce n'est pas si facile que ça. D'où voilà, finalement, effectivement, si on regarde sur le papier, tout cela est très alléchant. Alors, ce qui est important, c'est que, de voir ici, c'est qu'on ne peut gagner de l'énergie avec cette technologie que si on utilise le lithium. Et je dois dire que on a essayé pendant 25 ans d'utiliser le lithium et on a échoué, c'est la raison pour laquelle on est passé à la technologie lithium-ion. Et maintenant, eh bien, on espère pouvoir utiliser le lithium métal dans cette technologie avec les problèmes que ça pose. Alors pourquoi cette révolution, si je peux dire, de les batteries tout solides? Eh bien là aussi, ça provient d'une recherche qui s'est effectuée au Japon. En 2011, un chercheur japonais a découvert un matériau inorganique, solide, qui est une phase lithium-germanium phosphate de soufre, comme indiqué ici, qui a une conductivité de 10-2 siemens par centimètre. C'est-à-dire l'équivalent d'une conductivité ionique dans un liquide. Et c'est ça qui a ouvert finalement, ou qui a relancé tout l'engouement pour de tels systèmes. Alors ça, c'est très intéressant, mais par contre, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on a toujours dans ces systèmes les interfaces. Et les interfaces, c'est réellement le cauchemar des électrochimistes. Dans tout système électrochimique, que ce soit pile à combustible, que ce soit directement cellule photovoltaïque, ainsi de suite, vous avez toujours ces interfaces, et c'est elles qui sont problématiques, qui vont affecter la durée de vie des accumulateurs. Et ce qui se passe, et ça a été la grande surprise aussi, c'est que malgré qu'on ait cette barrière physique, eh bien, les dendrites de lithium repoussent toujours et directement creusent cette électrolyte. D'où par conséquent, il va nous falloir dans ce cas des approches de surface pour essayer de maîtriser ces systèmes tout solides. Alors, qu'est-ce qui se fait à ce niveau? Eh bien, je vais vous rapporter directement des résultats qui sont très prometteurs, indiqués qu'on a obtenus au collège, mais bon, d'autres laboratoires obtiennent aussi des résultats analogues dans le monde, où on peut maintenant, avec un système sans liquide, tout solide, vous voyez qu'on a des courbes de polarisation qui sont relativement faibles, Et on a des solutions d'encyclage qui sont relativement intéressantes. Mais ça, c'est en jouant avec une configuration relativement complexe. Et notez ici que je n'utilise pas encore du lithium métal. Car pour que ces systèmes tout solides fonctionnent, il faut que vous appliquiez de la pression. Et tout récemment, on a réussi directement à améliorer le système. Vous voyez ici une courbe électrochimique vis-à-vis du lithium. Alors c'est cyclé à des régimes relativement lents, dans laquelle la polarisation est faible. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, on peut cycler ces accumulateurs à des pressions relativement basses qui laissent entrevoir finalement la possibilité de ne pas développer toute une mécanique pour le cyclage. D'où, sur ce système, eh bien, il faut que vous gardiez à l'esprit qu'à ce jour, vous n'allez pas trouver un laboratoire dans le monde, vous n'allez pas trouver une institution, vous n'allez pas trouver une industrie qui ne travaille pas sur le lithium tout solide. Tout le monde travaille sur le lithium solide. Il y a bien sûr de nombreuses spin-offs qui sont créées. Je vous ai mentionné ici certaines d'entre elles. Et aujourd'hui, eh bien, le jeu, c'est que vous avez des partenariats qui vont se faire entre ces différentes spin-offs et tous les fabricants de véhicules électriques, parce que chacun essaie tout simplement d'avoir, je dirais, le pari gagnant, quelle va être la spin-off qui va réussir dans le développement de cette technologie tout solide. D'où, comme je vous l'ai montré ici, dans ce cas, ce qui va se passer, ou ce qui se passe, c'est-à-dire à ce jour, eh bien, la technologie tout solide, en démonstration, certainement que dans les années 2030 ou 2032, alors que ça avait été annoncé en 2022, eh bien, on aura des prototypes, mais je dirais que ce sera pour genre de vitrine, car elles sont loin d'être compétitives au niveau marché, au niveau coût, avec la technologie lithium. Donc voilà, si vous voulez, ce que je voulais vous dire un peu sur tout ce qu'est l'autonomie. Alors ensuite, le second point que je voudrais vous adresser, et un point aussi qui doit vous intéresser, c'est finalement, qu'en est-il de cette fameuse charge de batterie? Okay. Et là aussi, comme tout le monde, on veut minimiser le temps de charge. Et la première question à se poser, c'est pourquoi il y a un problème de temps de charge dans une batterie? Eh bien, je vais essayer de vous démontrer ça de façon très simple et de façon que vous compreniez cela. Donc voilà réellement ce que c'est qu'une batterie à ion lithium. C'est-à-dire, je voudrais, rappelez-vous, dans ce cas, c'est le lithium qui va aller d'une électrode positive à l'électrode négative, et j'ai mes potentiels redox, donc mon électrode positive ici, donc je vais charger, et voilà mon électrode négative. Et vous voyez que là, j'ai mes fameux NMC, mon graphite, tout se passait bien. Là, je suis relativement lent. Maintenant, si je veux charger rapidement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, automatiquement, je vais avoir une impédance importante, je vais créer une polarisation. Et si je crée une polarisation, eh bien, regardez ce qui se passe, ma courbe, la négative, elle va passer un potentiel en dessous du lithium. Et à ce potentiel, le lithium ne va plus aller dans mon matériau, mais il va aller se déposer à la surface, et je vais créer ce que j'appelle du lithium plating. D'où voilà directement ce qui se passe. D'où, pour contourner cela, eh bien, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? On va tout simplement utiliser des électrodes négatives différentes, et on va utiliser ce composé, un spinel de formule lithium 4I5O12, qui a un potentiel redox aux alentours de 1,5 volts. Et là, eh bien, je peux charger très rapidement. Le potentiel redox n'arrivera jamais à celui du lithium. D'où voilà directement quelle est la limitation et l'origine de la problématique de la charge. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Eh bien, je vais vous prendre directement deux exemples. Je vais vous prendre l'exemple de la Zoé. L'exemple de la Zoé, vous avez une batterie de 52 kWh, et si je vais utiliser maintenant un chargeur de 120 kW, eh bien, il va me falloir tout simplement aux alentours de 45 à 50 minutes pour charger de 15 à 80%. Okay. Je peux prendre maintenant des chargeurs plus sophistiqués, je vais prendre la Tesla, et dans ce cas, eh bien, j'ai une batterie de 74 kWh, j'ai un superchargeur qui va aux alentours de 180 à 250 kW, eh bien, vous voyez qu'ici, il va me falloir un temps moindre, mais quand même, il va me falloir quand même 25 minutes pour arriver à 80%. Donc la question que vous pouvez vous poser, c'est, on vous parle des fois des charges rapides, directement, de 2 à 3 minutes. Alors des charges rapides de 2 à 3 minutes, eh bien je vous dis, c'est totalement impossible, sur des véhicules électriques. Pour la bonne et simple raison qu'il suffit de faire un simple calcul. Quand vous faites des simples calculs, on est en train de parler de kilowatts. Les quantités d'énergie à transférer sont colossales. Et vous faites des calculs, et la physique va vous dire, non, on ne pourra pas le faire. C'est-à-dire qu'il va falloir des barreaux, directement, de cuivre, qui vont avoir directement 5 cm de diamètre, ou alors espérons qu'un jour on puisse avoir des câbles supraconducteurs, là ce serait génial, mais ce n'est pas demain. Et ensuite on peut directement changer, jouer entre le balance, entre l'ampère et la tension, comme ainsi. Mais ça, si vous voulez, ce n'est pas possible. Alors ensuite, eh bien, on va aller encore plus loin, et là je vais quand même vous, certainement vous surprendre, en disant maintenant, bon, ok, on a le véhicule électrique, et on va maintenant voir ce qui se passe quand on va sur les autoroutes. Alors bien sûr, quand on voit ça, on ne peut pas se permettre d'attendre plus d'une heure en train de recharger. D'où par conséquent, il va falloir avoir plusieurs stations pour pouvoir recharger et faire des charges, je dirais, à 70%. Alors maintenant, on va prendre un exemple dans lequel on va se placer en été, où tout le monde veut partir en vacances. Et vous voyez qu'aujourd'hui, j'ai combien ? J'ai 60 000 bornes bien dans des autoroutes. Eh bien, je fais l'hypothèse que j'ai fait auparavant dans le cas de la Zoé, 10 000 véhicules électriques, batterie de 50 kW, ainsi de suite, ainsi de suite. Il va falloir 2 000 bornes par station, c'est-à-dire, grosso modo, il va falloir un réacteur tous les 200 km. Voilà directement la problématique. Alors, bon, ce n'est pas alarmant, mais ça veut dire que la transition énergétique, eh bien, vous allez tout simplement perdre votre liberté. D'où, pourquoi pas ? Ça veut dire que maintenant, eh bien, plutôt que de partir en vacances tous le samedi matin, il faudra partir échelonné durant la semaine. Ensuite, eh bien, il faudra réserver sa borne de recharge. Lorsque vous allez en Corse, vous réservez le ferry. Pourquoi pas ? Et ensuite, eh bien, il faudra tout simplement, il va y avoir des aiguilleurs, je dirais des autoroutes. D'où, il ne faut pas se faire d'illusions, le véhicule électrique va entraîner un mode de vie totalement différent avec des transformations. Il va falloir s'y adapter, si vous voulez, directement décarboner ou des fossiles. D'où voilà, si vous voulez, la question qui se pose. Alors maintenant, la question, c'est, bon, et si on fait tout ça, eh bien, finalement, est-ce qu'on va décarboner ou est-ce qu'on va avoir une atmosphère meilleure ? Eh bien, là aussi, la réponse ne va pas être 100% oui, il va y avoir des conditions. C'est-à-dire que si je prends le véhicule électrique maintenant, ce qui va être important va être tout simplement d'où vient mon énergie primaire. Et vous voyez ici, dans le cas où j'utilise mes énergies fossiles, et voilà dans le cas, je dirais, du véhicule électrique, et si j'utilise une énergie qui provient tout simplement des centrales thermiques, eh bien, dans ce cas, vous voyez que je deviens aussi polluant que les énergies fossiles en termes de CO2, ainsi de suite. D'où, par conséquent, eh bien, il va falloir tout simplement améliorer ce système. Alors ensuite, si je regarde maintenant le cas où je suis purement électrique, si je prends ces deux cas, eh bien, vous voyez qu'en ce cas, eh bien, la contribution de la batterie, eh bien, va être aussi un rôle. Et en effet, si on fait une analyse de cycle de vie sur les batteries, eh bien, on s'aperçoit, comme on le voit ici, eh bien, c'est que tous les procédés en chaîne pour conduire du minerai à la production de la batterie à son recyclage, eh bien, tout cela n'est pas gratuit. Il va y avoir également un coût énergétique, c'est-à-dire que pour faire 1 kWh de batterie, il vous faudra 327 kWh d'énergie. Alors ça, ce n'est pas un problème, puisque vous faites 10 000 cycles, si je peux dire. Mais il y a également un rejet de 90 kg par kWh. D'où la question, c'est finalement comment aborder ce problème et que faire de mieux que ça. Eh bien, pour faire cela, eh bien, je vais directement aborder mon deuxième point, qui va être l'éco-compatibilité et quelles sont les alternatives. Mais une alternative, eh bien, effectivement, c'est la technologie à ion sodium. Alors, dans ce cas, pourquoi ? Eh bien, pour la bonne et simple raison, vous savez tous que le lithium ou que le sodium est beaucoup plus abondant sur la côte terrestre, mais surtout dans les mers et les océans, et ainsi de suite. Et vous voyez ici les proportions, c'est des facteurs de 10 000. Et là aussi, eh bien, c'est récemment qu'on se met à développer la batterie sodium-ion. Alors là, pour ceux qui regardent l'histoire, je dirais qu'il n'y a pas une grande découverte scientifique, hein, parce qu'il y avait cet écrivain, Jules Verne, qui avait de plus de 150 ans, dans son roman « 20 000 lieues sous les mers », avait déjà prédit que la technologie sodium-ion serait une technologie, je dirais, importante dans le futur. Bon, fallait-il encore le concrétiser ? Eh bien, c'est un peu ce qu'on a fait dans le cas du réseau français, où on a développé la technologie sodium-ion que je vous indique ici. C'est une technologie qui est finalement le clone de la technologie lithium-ion. On va utiliser des matériaux identiques, des concepts identiques, mais bien sûr, les électrolytes, les acidités, les basicités seront différentes. Il faudra tout simplement ajuster cela. Alors, c'est des recherches qu'on a faites. Là aussi, je vais vous donner juste un aperçu. où on a tout d'abord, dans ce cas, eh bien, fabriqué des accumulateurs, et très rapidement, au départ, on a eu un succès, je dirais, énorme, puisqu'on a pu, dans ce cas, eh bien, avoir des tenues en cyclage relativement conséquentes, et surtout, et on y reviendra par la suite, des performances en puissance, je dirais, très encourageantes. Par contre, eh bien, ça, c'est à 25 degrés. Et là, c'était vraiment, je dirais, l'époque où la recherche était à son bout, et malheureusement, heureusement, j'en sais rien, on a voulu faire des mesures à 55 degrés. Et en 55 degrés, eh bien, c'est devenu catastrophique, parce que vous savez que dans, on fait des accumulateurs, eh bien, il y a les réactions parasites, qui sont des réactions catalytiques, et c'est la chimie. Dès qu'on augmente la température, eh bien, on va exacerber ces réactions. Et on s'aperçoit ici qu'il y a finalement des chutes en cyclage et des taux de charge gigantesques. Donc là aussi, je ne vous passe pas le nombre d'années pour faire cela. Il a fallu revenir au laboratoire, faire de l'électrochimie fondamentale pure, avec de la psychovoltamétrie pour comprendre finalement quelle était l'origine de ces défaillances, et ainsi de suite, pour identifier, je dirais, certains électrolytes qui étaient problématiques, et ainsi de suite. Après cela, eh bien, on a pu finalement, je dirais, confectionner un électrolyte qui est relativement complexe. Vous avez ici directement ce qui est typiquement les types d'électrolytes que vous avez dans les accumulateurs. Vous n'avez pas qu'un seul composant. Vous avez ici, vous avez un sel, vous avez différents solvants, et vous avez tous ces additifs à la hauteur de 1 à 2%, dont la quantité est importante et le choix est important. Car il faut qu'ils en aient des quantités suffisantes pour faire une couche de passivation, mais pas plus. Et grâce à cela, eh bien, on a pu obtenir des performances maintenant à 55 degrés qui sont très, très encourageantes. Et surtout, eh bien, cet accumulateur ou cette technologie a un avantage énorme, qui est un avantage au niveau puissance, et on peut avoir des performances en puissance qui sont supérieures à la technologie lithium-ion. D'où c'est cela, comme Michel l'a mentionné au départ, qui a conduit finalement à la création de cette compagnie Tiamat, dont vous avez ici le logo, compagnie qui a, je dirais aujourd'hui, une commande de 1,8 MWh, mais là aussi, faute d'avoir pu trouver des financements français, nous sommes obligés d'aller sous-traiter en Chine pour la production. Et, bien sûr, aujourd'hui, la compétition fait rage, et les Chinois et autres sont sur le marché, et notamment CATL, qui est certainement un des plus grands producteurs chinois, a annoncé qu'il se lançait à fond dans la technologie sodium-ion. D'où le sodium-ion, c'est aujourd'hui, ça sera directement, ça arrive, c'est là, et ça sera dans, vous en trouverez très, très bientôt. Donc voilà, si vous voulez, ce que je voulais vous dire pour mon second aspect concernant l'éco-compatibilité. Et le troisième aspect, maintenant, que je voudrais partager avec vous, c'est l'aspect plutôt sur ce que j'appellerais les batteries intelligentes, et c'est un peu, je dirais, le dada dans mes recherches aujourd'hui. Où là, eh bien, dû au fait, finalement, qu'on a, ou qu'on sait que la technologie lithium-ion, eh bien, on l'a pour 50 ou 100 ans maintenant, eh bien, comment peut-on l'améliorer et comment peut-on augmenter sa durée de vie? D'où le but ici, c'est tout simplement comment on peut rendre ces batteries intelligentes. Alors la question, c'est pourquoi rendre ces batteries intelligentes? Eh bien, c'est indiqué ici. Au niveau du laboratoire, alors ça c'est toujours pareil, au niveau du laboratoire, vous voyez ici qu'on sait très bien caractériser aujourd'hui les accumulateurs avec les cellules, avec les différentes problématiques. Par contre, maintenant, lorsqu'on regarde sur le système, sur le véhicule électrique, eh bien, au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun moyen de savoir ce qui se passe à l'intérieur de l'accumulateur, même quelle est la température, et ainsi de suite. D'où par conséquent, eh bien, on veut tout simplement anticiper les défaillances et, si je peux dire, aller à travers ce pont entre le laboratoire et l'appliquer. Alors pourquoi on veut faire cela? Eh bien tout simplement, on veut augmenter la durée de vie des accumulateurs, c'est-à-dire on voudrait leur donner une double vie. On voudrait également augmenter leur utilisation, parce qu'aujourd'hui, dû à des problèmes de sécurité, eh bien, vous n'utilisez pas les batteries à 100%, vous l'utilisez à 70%. Et également, une autre application qui est liée au fait que votre véhicule électrique, vous n'allez pas l'utiliser à 100%, des fois à 20 ou 30%, c'est-à-dire qu'on peut maintenant jouer avec le réseau et votre batterie de véhicule électrique peut alimenter le réseau pendant certains instants et ensuite être le contraire. Et c'est ce qu'on appelle les applications B2G et G2B. Et ça, c'est très important pour certainement le pilotage des énergies renouvelables. D'où par conséquent, eh bien, ce qu'on va faire, ces combats, tout simplement, s'inspirer du domaine, je dirais, de l'anatomie, et voir si on peut, comme dans le corps humain, lorsqu'on fait une opération, on vous envoie directement une fibre optique, et on va essayer d'avoir une image de ce qui se passe, et la transférer à l'extérieur. Eh bien, on va tout simplement faire un peu la même chose dans le cas des batteries, où on va introduire cette intelligence. Vous voyez ici une batterie dans laquelle je vais introduire une fibre optique. Et la particularité intéressante, c'est que cette fibre optique, eh bien, elle va être inscrite par un réseau de Bragg. Et je vais utiliser ce réseau de Bragg pour, maintenant, déterminer différentes métriques, différentes observables, physiques et chimiques, dans mon accumulateur. Alors, comment cela fonctionne? Eh bien, ce réseau de Bragg, ce n'est rien d'autre qu'une fibre optique classique, vous avez télécommunication, single mode, dans lequel vous allez inscrire, ici, un réseau de Bragg, c'est-à-dire une variation périodique de l'indice de réfraction sur la fibre. Ce qui fait que lorsque vous allez envoyer une lumière, vous allez avoir la période indiquée ici, et vous allez avoir finalement un effet miroir, c'est-à-dire une longueur d'onde qui va être réfléchie. Et c'est cette longueur d'onde, lambda B, que j'appelle, dont je vais me servir pour avoir toutes mes observables à l'intérieur de l'accumulateur. Alors, pour vous donner un exemple, eh bien, si je chauffe directement la batterie, vous voyez qu'en ce cas, eh bien, cette longueur d'onde va changer, et à partir de sa valeur, je vais pouvoir remonter la température. Alors, bien sûr, je vous passe certains points. Ça varie aussi également en fonction de la pression, on le verra par la suite, et en fonction de la contrainte. Et c'est ainsi que l'on peut maintenant eh bien, mettre ou équiper nos accumulateurs de fibres optiques, comme indiqué ici, vous voyez une fibre optique qui sort, et là vous avez une configuration en sulpouche. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec cela? Eh bien, avec cela, on peut aller maintenant inspecter, je dirais, la vie intime de la batterie. Vous avez ici deux fibres optiques, une placée à l'intérieur et l'autre placée à l'extérieur. Vous avez votre accumulateur et vous allez le charger à différentes puissances. Et si vous faites ça, vous apercevez finalement que l'on peut voir qu'il va y avoir un gradient de température de 7 à 8 degrés entre l'intérieur et l'extérieur. Et ça, c'est très important pour comprendre la fameuse SEI qui est à l'intérieur de ces accumulateurs. Et je peux maintenant m'amuser à aller dans l'axe Y et je peux mettre directement mes capteurs ici. Et l'avantage de la fibre optique, pour ceux qui travaillent, c'est qu'on peut faire du multiplexing. C'est-à-dire que sur la même fibre optique, je peux avoir une vingtaine ou trentaine de capteurs. Donc je peux finalement avoir une image en température de mon accumulateur. Tout ça, c'est vraiment là ce qu'on peut faire, et tout ça, c'est important pour tout ce qui est la gestion thermique de la batterie. Ensuite, on peut avoir accès à d'autres informations. Et je vous ai parlé de cette fameuse interface, de cette fameuse SEI, qui est primordiale dans les batteries à ion lithium. Et cette SEI, ce n'est rien d'autre qu'une réaction chimique parasite qui va engendrer tout simplement des réactions de décomposition associées à des élévations de température et à des dégazages. Et bien, lorsque je fais ma courbe électrochimique et je mesure la température, et bien regardez, j'aperçois tout simplement un grand pic en température, c'est-à-dire une réaction exothermique, et ensuite j'ai des pics que je pourrais associer. Et lors de mon second cycle, ce pic disparaît. Ça veut dire que je peux directement identifier la formation de cette fameuse SEI. Et maintenant, si je change ma fibre optique, je prends une fibre optique microstructurée, c'est-à-dire qui va être dessinée pour maintenant capter la pression, eh bien je peux directement capter la pression associée à sa réaction électrochimique. Et vous voyez que j'ai la réaction électrochimique, température et pression. Donc maintenant, je peux directement avoir accès à cette fameuse formation de SEI à l'intérieur. Alors la question, maintenant, c'est-à-dire qu'on peut, dans ces accumulateurs, avoir accès aux réactions parasites. J'ai accès aux mécanismes, en plus. Mais la question qui me manque ici, ou qui est vraiment primordiale, c'est quelles sont les molécules qui se forment et est-ce que je peux avoir accès à ces molécules? Eh bien, vous allez voir que oui, on peut avoir accès, mais là aussi, il a fallu innover et changer de stratégie. C'est-à-dire que maintenant, je n'ai plus qu'utiliser un capteur de Bragg, parce que si je veux avoir accès à la chimie dans l'intérieur, je suis obligé directement d'aller probé, excusez-moi du mot anglais, je ne me rappelle pas du mot français, prober l'extérieur électrolyte. Sonder. Et dans ce cas, eh bien, automatiquement, ce que je vais utiliser, c'est l'onde évanescente. Donc les ondes évanescentes, on peut les utiliser. Mais n'oubliez pas, je suis dans une fibre de silice et je vais aller voir des molécules. D'où la fibre de silice, le domaine de transparence est de 1,5 micron à 3 microns. d'où ça ne marche pas. D'où il faut que j'augmente mon domaine de transparence. Et ce qu'on a fait, c'est qu'en ce cas, on a utilisé des fibres optiques en chalcogénure. Et ces fibres optiques en chalcogénure nous permettent simplement de couvrir de 1 micron à 13 ou 14 microns. Et bien, grâce à cela, maintenant, j'ai accès à toute la chimie à l'intérieur de ma batterie. Vous voyez ici, mon accumulateur. Je travaille maintenant dans ce mille-infrarouge. Alors, je ne vais pas faire 30 microns, malheureusement, on n'a pas les fibres. Mais on peut maintenant capter toutes les molécules associées à l'électrolyte. Et ça, je dirais, c'est une première dans le domaine où, jusque-là, personne n'avait pu, tout simplement, faire ces manips de type in situ. Et, ayant fait cela, on peut maintenant coupler l'ensemble des fibres. Je peux utiliser une fibre optique classique avec mon réseau de Bragg et que je peux coupler directement avec ma fibre infrarouge. Et grâce à cela, je peux avoir tout simplement le spectre infrarouge, les propriétés physiques ou les maîtrises physiques et les maîtrises chimiques. D'où voilà, si vous voulez, ce que l'on peut faire dans ce domaine. Alors ensuite, maintenant, je vous ai montré finalement comment on fait le diagnostic. Et si je reprends mon image d'aller à l'hôpital, vous allez à l'hôpital, on vous fait un diagnostic, vous avez une tumeur. On ne va pas vous laisser repartir avec la tumeur. Nous allons essayer de faire l'auto-réparation. Eh bien, c'est un peu ce que l'on fait ici, où là, le projet est beaucoup moins avancé, mais on est en train d'essayer de faire de l'auto-réparation dans ces batteries. C'est-à-dire qu'on veut recoller les tissus et on veut faire directement contrôler le transport d'ions. Et là aussi, lorsqu'on fait cela, finalement, on ne peut, que s'inspirer de la nature, qui est finalement le domaine parfait dans lequel on peut avoir ce domaine d'autoréparation et également ces transports bien contrôlés. Et l'exemple, le plus classique, si vous prenez une membrane, par exemple, une membrane va tout simplement partager le domaine intracellulaire et extracellulaire, et c'est elle qui va régler, gouverner le type d'ion, le type de protéine qui va directement passer d'un côté à l'autre par les canaux protéiques. Eh bien, on va directement jouer là-dessus et surtout regarder comment cette membrane est constituée localement. Et cette membrane est constituée d'un assemblage de lipides qui, à l'échelle locale, est gouvernée par des interactions non covalentes réversibles, c'est-à-dire par de la chimie supramoléculaire. D'où on va, dans ce cas, dessiner de nouvelles membranes en utilisant des agents supramoléculaires. Et l'un qu'on a pris, tout simplement, c'est la cycodestrine, comme indiqué ici, comme agent supramoléculaire. Et grâce à cela, on a montré la spécificité de cette cyclodestrine par rapport au polysulfure pour construire ces genres de membranes qui vont être sélectifs au passage de polyanions. C'est-à-dire, elles ont des constantes, de complexation qui va faire en sorte qu'on va pouvoir monter en température et changer l'équilibre pour relarguer directement les polyanions. D'où on va utiliser tout cela, la température comme un stimulus. D'où, pour conclure, cette partie, où est-ce qu'on en est? Quelle est notre vision? D'ailleurs, quelle est la vision qu'on a partagée avec 2030, la batterie 2030 a ses objectifs. Voilà directement comment on visualise la batterie du futur 2030 et après. C'est-à-dire, vous avez la batterie normale, mais la différence, c'est que maintenant, vous allez avoir, une troisième sortie, qui va être la sortie analytique, pour avoir toutes les informations, et ainsi de suite. Et grâce à tous ces capteurs et au multiplexing des fibres optiques, on peut avoir accès à toutes ces observables, que ce soit des observables thermodynamiques ou chimiques. Ensuite, cela sera envoyé à un système de gestion qui, par la suite, va être couplé, à l'intelligence artificielle. Et ça, c'est d'autres groupes qui font ça. Et avec, la partie de autoréparation. Mais là, en toute honnêteté, là, il faudra encore attendre pas mal d'années car c'est très complexe. Le but, c'est tout simplement d'avoir un passeport électronique de la batterie avec les avantages qui sont mentionnés ici, c'est-à-dire une meilleure utilisation, une meilleure durée de vie, une meilleure sécurité, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, l'aspect sur lequel on travaille. Et pour terminer cette présentation, maintenant, je voudrais juste, en 4 ou 5 transparents, revenir sur la problématique des matériaux et la problématique du recyclage dans les batteries. Alors, je vous ai parlé finalement déjà des quantités colossales qu'il y avait de matériaux pour les batteries, mais on est en train de parler de transition énergétique, mais il y a également en même temps des transitions numériques, et ainsi de suite. Et il est intéressant de regarder finalement les quantités de matériaux nécessaires. Et si vous regardez finalement ce qui se passe, si au fur et à mesure, que ce soit dans le domaine de la transition énergétique ou dans le domaine numérique, eh bien on va utiliser des quantités, je dirais, plus importantes de matériaux et une plus grande diversité de matériaux. Et là, c'est intéressant parce que là, je vais vous mettre un graphe qui va vous faire réagir aussi. C'est-à-dire que si maintenant je prends le véhicule électrique, eh bien le véhicule électrique n'est pas gratuit à l'intérieur de métaux. Si je compare le véhicule électrique et le véhicule thermique, eh bien je vais avoir une demande 6 fois supérieure en métaux. Je vous ai mentionné les batteries, les différents métaux qu'il y a, ainsi de suite. Tout ça, c'est un point relativement important. D'où, dans le futur, il va y avoir besoin d'une plus grande quantité de métaux et d'une plus grande diversité. Et si on s'amuse à faire des prédictions, eh bien on va arriver à une remarque assez intéressante, c'est-à-dire qu'il faudra produire plus de ressources minérales d'ici 2050 que l'on a produit jusqu'à maintenant. Okay ? Donc voilà les situations dans lesquelles on est. Alors, là, pour l'illustrer, eh bien je vais reprendre encore le cas des batteries à ion lithium, dans lequel je vous ai mentionné qu'il y avait trois éléments, qui étaient le cobalt, le nickel et le lithium. Et ces graphes sont intéressants, parce que dans ce cas, je représente en vert, eh bien, tout simplement, c'est les métaux qui sont utilisés pour les batteries aujourd'hui, avec les demandes que j'aurai jusqu'en 2030, et en rouge, c'est directement, c'est les productions. Et vous voyez qu'en 2030, théoriquement, tout le cobalt produit sera utilisé pour les batteries, mais bon, on est, comme je l'ai mentionné, on est en train de baisser les taux de cobalt. Le nickel, bon, a priori, il n'y a pas trop de problème. Regardez le lithium, eh bien, en 2030, tout le lithium produit sera utilisé pour les batteries. OK ? D'où, par conséquent, la conclusion de tout ça, eh bien, c'est que finalement, il y a une nécessité de développer une filière de recyclage qui va être très importante. Okay. Et ça, eh bien, c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui. Alors, si on regarde le recyclage, là aussi, c'est intéressant, parce que vous allez voir qu'on peut apprendre de l'histoire. Si je regarde l'histoire, eh bien, je reprendrai l'histoire des polymères. Et si on prend l'histoire des polymères dans les années 1900, c'était un peu comme le véhicule électrique aujourd'hui, c'était l'engouement, le polymère allait tout faire, et d'ailleurs, il pouvait tout faire, et ainsi de suite. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les polymères sont des cauchemars, car on n'a pas travaillé directement le recyclage. Donc la question, c'est qu'il faut vraiment qu'on ne fasse pas la même erreur avec le cas du véhicule électrique. Il faut, dès aujourd'hui, et quand je parle du véhicule électrique, c'est la même chose pour les panneaux photovoltaïques, et ainsi de suite, il faut qu'on développe des filières de recyclage. Car les quantités qu'on va avoir, je dirais, à recycler sont de toute façon gigantesques. Et là aussi, eh bien, malgré que ça ne prendra que d'un transparent, il y a des recherches énormes, énormes que l'on fait dans ce sujet. Alors là, c'est un sujet qui est très passionnant d'un point de vue chimie, chimie de solution, où il faut trouver d'autres méthodes. Car aujourd'hui, les méthodes que l'on a, c'est la pyrométallurgie et l'hydrométallurgie, c'est-à-dire qu'on va broyer tout ça. Mais c'est des méthodes, finalement, lorsque vous faites le coût, l'analyse en coût en termes de CO2 et tout ça, ce n'est vraiment pas des méthodes vertueuses. D'où, par conséquent, on est en train de développer des méthodes, je dirais, de direct recyclage, c'est-à-dire de pouvoir recycler les batteries sans les broyer, et ainsi de suite. Et là aussi, une méthode futuriste sur laquelle on travaille, eh bien, c'est de nouveau challenger ce qui s'est fait pendant des centaines d'années. Pourquoi on a toujours la même forme de batterie depuis plus de 50 ans ou 100 ans? Eh bien, on est en train d'envisager la possibilité de faire des batteries de type Lego, dans lequel, dans ce cas, eh bien, on pourrait tout simplement changer un seul composant. Puisqu'on fait le diagnostic, on saura quelle électrode est défaillante et on pourra par la suite changer le différent composant. Donc voilà, si vous voulez, ce que l'on fait dans ce domaine. Alors tout ça, eh bien, ça se place où aujourd'hui? Au niveau européen. Et au niveau européen, vous allez voir que l'Europe, bon, c'est son seul travail, elle va émettre des directives, ainsi de suite. Et vous voyez que directement, si on regarde l'empreinte carbone, eh bien, il faut qu'en juillet 2027, il y aura déjà des restrictions au niveau des empreintes de carbone sur les accumulateurs lithium-ion. Je vous ai parlé des matériaux recyclés. Alors là, c'est en 2035, mais il faudra, vous voyez, 25% du cobalt dans les accumulateurs devra être recyclé. Autant pour nickel, enfin, bon, peu importe. Et également, je vous ai parlé du passeport électronique. Eh bien, là aussi, l'Europe veut que chaque batterie ait un passeport électronique, c'est-à-dire savoir directement son utilisation, comment ça s'est fait, ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, ce qui se passe. Alors ensuite, eh bien, dans le domaine du véhicule électrique, eh bien, là aussi, l'Europe va émettre directement des directives au niveau du CO2. Et vous avez ici les différents CO2 que l'Europe directement affiche comme cible dans les années 2030, ainsi de suite. Alors avec tout ça, je dirais tout simplement que, effectivement, l'Europe, eh bien, elle est, je dirais, performante en écrivant les directives, mais elle ne vous dit jamais si les technologies sont adéquates pour les faire, et surtout, si c'est faisable dans le temps que vous êtes imparti. Et c'est là la grosse difficulté. D'où, je voudrais conclure cet exposé en espérant vous avoir convaincu, eh bien, que le domaine des batteries est un environnement dynamique, où il y a des recherches fondamentales qui sont, je dirais, importantes pour avoir des ruptures technologiques, et je vous ai mentionné certaines d'entre elles. Dans le futur, eh bien, ça continuera tant au niveau, je dirais, de la chimie ou de l'engineering avec des nouvelles chimies. On a vu le sodium ion, on a vu le tout solide, et il faudra encore des améliorations. Dans le domaine industriel, il y a les gigafactories, mais je ne vous ai pas mentionné également bon, les matières premières, j'ai mentionné, tout ce qui est équipement d'assemblage, eh bien, tout ça aussi aujourd'hui, on l'importe. Et dans le domaine du développement durable, eh bien, là aussi, les techniques diagnostiques, et surtout, revisiter la chimie du recyclage. D'où la question, c'est finalement, quelles sont les chances d'obtenir la neutralité carbone en 2050? Bien, je dirais, ça dépend de la réussite du pacte européen, mais je crois qu'il est très optimiste. Mais ça dépendra, bien sûr, de nos capacités à électrifier nos secteurs énergétiques, à pratiquer la sobriété, et surtout, à éduquer, entraîner nos jeunes à ces actes de recherche liés directement au développement durable. Et avec ça, écoutez, je voudrais remercier mon groupe qui a fait pas mal les travaux que j'ai mentionnés et vous pour votre attention.